Cleveland's 100 points out to the west.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh,
Radio X.
Que j'aime les mercredis, c'est là où on s'enfile. Moi et Christian, un petit chapeau d'aluminium et on parle des théories du complot, des histoires inexpliquées. Bonsoir, merci les auditeurs d'être avec nous. Christian, comment vas-tu aujourd'hui?
Ça va très bien. Mais écoute...
Parfait.
Les auditeurs le savent, je me bats contre une maladie difficile.
Oui.
Et là, je viens d'avoir un petit bilan de santé là, aujourd'hui qui était plutôt positif. Donc, ça va plutôt bien.
On savoure chaque petite victoire comme ça.
Ouais, Christian,
je suis avec toi
absolument.
En pensée, à défaut d'être avec toi physiquement. Ce soir, j'ai posé la question sur notre page Facebook. Est-ce qu'on va parler un petit peu d'Elvis? C'était une petite demande spéciale de ma part. Et tu l'as rajouté à l'agenda.
Oui, je n'avais pas l'intention d'en parler. Hein. Je pensais qu'on avait assez parlé d'Elvis. Mais bon, c'est vrai que hier j'ai reçu beaucoup sur les médias sociaux, beaucoup de félicitations. Les gens ont aimé mes commentaires. Je viens d'entendre justement tes collègues aussi de l'émission précédente qui ont été amusés par le fait que j'ai parlé de ma passion pour Elvis. Et effectivement, hier, tu m'avais dit que ce serait le fun en toute l'histoire de Elvis, est-il toujours vivant? En fait, d'où ça vient? Puis il y a quelques années, moi et Marceau, on avait fait deux fois 2 heures, donc 4 heures. Puis j'avais encore du matériel. On avait fait 4 heures sur les grands mythes et complots qui tournent autour du milieu artistique.
Okay.
Ça allait de Elvis est toujours vivant à on a remplacé Paul McCartney des Beatles suite à un accident d'automobile. Michael Jackson s'est fait traiter pour devenir blanc où il dort dans une chambre hyperbare. Kurt Cobain a été assassiné par sa femme. Donc, il y a énorme... Et il y avait aussi, dans les années 70 et 80, l'histoire des messages subliminaux sur les micro-sillons qu'on faisait tourner à l'envers. On
oui.
en avait fait entendre quelques extraits à l'émission. Ça a été du bonbon. Donc, on s'était offert 2 fois 2 heures et à chaque fois, ça a été du bonbon de parler tout ça parce que on a baigné dans cette culture-là pour les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, ben je pense que tous les gens ont entendu parler de toutes les histoires de Michael Jackson. Bon, il s'est fait blanchir, il dormait dans une chambre hyperbare. Et les plus vieux, ben c'est les histoires tournant autour de Jim Morrison ou Paul McCartney est mort d'un accident d'auto en 1968. En 66, on l'a remplacé par un sosie. Donc d'où viennent toutes ces histoires-là et pourquoi ils continuent d'alimenter la presse? Parce qu'on est fasciné par ces histoires-là et Elvis bien sûr. Et je te dirais dans les grandes théories complotistes ou mythiques concernant le milieu artistique, c'est sûr que Elvis a une position très enviable parce que les histoires sur Elvis est-il toujours vivant circulent depuis sa mort. Hein. En fait, ça a commencé quelques jours après sa mort. Déjà, on a commencé à avoir des rumeurs concernant la survie d'Elvis. Fait que je vais t'en parler j'ai décidé de rajouter ça à mon agenda de ce soir. Elvis est-il toujours vivant? L'origine du mythe. Où est-ce que tout ça a pris naissance? Et puis, en deuxième partie d'émission, puisque l'émission du mercredi est consacrée aux énigmes de l'histoire et aux théories du complot, je vais te parler d'un document qui, en te le disant comme ça, ça peut paraître assez simpliste, une carte qu'on appelle la carte de Vinland. Et dit comme ça, tu dis, c'est très anecdotique. Et pourtant, l'histoire de cette carte a des conséquences très importantes sur toutes sortes de mythes et de légendes que l'on raconte. Et tu vas voir que les gens se font pas mal entuber avec cette histoire de carte-là.
Okay.
Donc, je voulais revenir là-dessus. Et en fait, ça m'a choqué. J'ai vu, je n'en dirai pas plus, en deuxième partie d'émission, je vais le dire, mais j'ai vu une émission à la télé québécoise où on a utilisé cette carte-là pour nous faire passer des salades, pour nous vendre des couleuvres. Et j'ai été choqué de voir ça. Je me suis dit, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai dit, il faut que je fasse un petit truc sur la carte de Vinland pour parler de ça. Et donc, ça sera ce soir, en deuxième partie d'émission, l'histoire de la carte de Vinland.
Excellent. En commençant pour la première partie de l'émission, on plonge sur l'origine du mythe, sur le fait qu'Elvis vit sur une île à quelque part dans
ouais.
le monde. Et en plus, ça semble être une théorie quasiment éternelle. Hein. Elvis pourrait avoir 120 ans, puis on dirait...
Il meurt pas.
C'est ça, il ne peut pas mourir. Il a atteint ce statut de légende-là.
Ouais, c'est ça. Donc, puis on s'imagine qu'il a toujours les mêmes cheveux noirs. Et,
c'est ça, il vieillit pas.
Vieillit
à l'épreuve du temps.
sur une île avec Marilyn Monroe et John F. Kennedy. Ils sont tous ensemble.
Exact.
Donc, en fait, l'idée de cette survie d'Elvis, elle est propre à, aux grandes idoles de la communauté. Hein. On refuse d'imaginer que les gens qu'on aime, qu'on adulte, puissent vieillir ou puissent mourir. Et qui plus est, lorsqu'ils meurent de manière un peu conventionnelle, tu sais, c'est un peu comme la princesse Diana, ben, on refuse de croire qu'elle puisse être morte dans un accident de voiture assez banal sur le pont de l'Alma à Paris parce que la voiture est entrée en collision avec un pilier de béton. Tu sais, on se dit, mais non, c'est trop banal, un accident de voiture. La princesse Diana meurt dans un accident de voiture. Donc, on s'imagine, il doit y avoir quelque chose. Parce que dans la rhétorique, c'est ce qu'on appelle un peu la correspondance entre l'effet et la conséquence. Tu dis, si l'effet est énorme, la conséquence, si l'effet ou l'événement est énorme, ben, la cause doit être énorme aussi. Mm-hmm. Donc, la mort de la princesse Diana, c'est énorme. Donc, la cause doit être énorme. Elle peut pas être morte dans un simple accident de voiture. Il devait y avoir Buckingham Palace placé derrière ça, un complot dans la royauté, on a engagé des tueurs à gages pour l'éliminer. Tu vois, on doit imaginer un scénario qui va correspondre à l'énormité de l'événement.
Et on a mis souvent la princesse Diana un peu comme le vilain petit canard de la famille royale, plus ou moins accepté.
Bien sûr, donc. C'est ça. Et elle est la princesse du peuple. Hein. On dresse un peu la royauté contre le petit peuple et la princesse Diana devient la princesse du peuple. Là. Donc là, il y a un levier de bouclier. On veut défendre la mort de Lady Di et on imagine toutes sortes de sombres complots derrière ça pour justifier ce décès-là. Et pourtant, non. Les enquêtes policières ont clairement démontré que malheureusement, c'est un accident de voiture avec un chauffeur qui avait peut-être dépassé le taux d'alcoolémie qui était légaux, les taux d'alcoolémie légaux. Okay. Puis voilà, une poursuite avec une voiture de paparazzi s'est terminée avec une collision contre un pilier de béton et ça s'en fut fait pour la princesse Diana. C'est banal en soi, mais c'est malheureusement comme ça. La mort de Jim Morrison est un peu la même chose. Idole des années 60 avec le groupe The Doors, qui était beau comme un dieu lorsqu'il était jeune. Hein, on a tous ces images de Jim Morrison, le ventre à l'air là, qui avait marqué la fin des années 60. Une image iconique hein, de Jim Morrison. Bon, à la fin, il avait pris un peu de poids puis il était moins séduisant. Mais c'est un personnage tellement iconique que lorsqu'on apprend qu'il est mort banalement dans son bain, on se dit non, ça se peut pas. Alors là, on a imaginé toutes sortes de choses. Il était mort dans un bar à Paris. On avait sorti son corps du bar. On l'avait amené chez lui pour faire à croire qu'il était mort chez lui pour dissimuler qu'il était impliqué dans de la consommation. Comme si on avait besoin de le cacher. Dans de la consommation de narcotiques dans un bar de Paris où se rencontraient toutes les grandes vedettes de l'époque, de Johnny Hallyday à Jim Morrison. Tu sais, mais c'est plus banal que ça. C'est un Marilyn Monroe qui se suicide chez elle en prenant des barbituriques. Non, il faut qu'elle ait été assassinée par les hommes de main de la CIA.
Ouais, ça
elle
a été engagée par les Kennedy. Puis
les Kennedy, voilà. Donc, on a besoin d'imaginer le drame est si grand que la cause derrière le drame doit être à l'égal du drame. Et Elvis Presley, c'est un peu la même chose. Dès qu'il est décédé, puis il décède très prématurément, à l'âge de 42 ans, même si c'est un homme très très abîmé hein, quand on voit les dernières images d'Elvis là, on est en 1975-1976, on voit que le personnage commence à prendre du poids, on voit que les effets de ses longues années de consommation de drogue commencent à avoir un effet sur lui et puis voilà de manière inattendue, le 16 août 1977, il décède chez lui. Donc, immédiatement après la mort d'Elvis, on a commencé à... Des gens qui ont dit, il n'est pas mort. Ça, c'est le refus naturel. Il ne peut pas être mort. Michael Jackson n'est pas mort.
Le déni.
Il y a un refus. Oui, il y a un déni au départ. Mais là, ensuite, les gens qui veulent croire qu'ils se sont enlisés dans cette idée-là que Elvis devait être vivant, ont commencé à voir toutes sortes de petits éléments, un peu comme les théories du complot, où on prend toutes sortes d'éléments, souvent disparates, on essaie de leur trouver des sens, hein, et à travers ça, on construit une hypothèse. Je dirais, le premier élément qui a marqué la mort d'Elvis, elle arrive soudainement, on s'y attend pas. On n'a pas vraiment de photographie de lui dans son cercueil. Il y en a une éventuellement qui sera publiée par le Weekly World News, mais c'est une photo qui est un peu granuleuse, qui a été prise un peu à la sauvette. Et certains se disent, bon, on dirait que la photo a été retouchée, oui. C'est pas très convaincant. Puis on se dit, il doit y avoir d'autres photos et pourtant, on n'en voit pas.
C'est pas son nez, Christian, ça y ressemble pas.
C'est ça. On a l'air d'un. On voit un, dans son cercueil, on voit un Elvis un peu joufflu, mais qui semble avoir les mêmes traits du jeune Elvis, alors que le vieux Elvis, en vieux entre guillemets, à 42 ans, était pas tout à fait comme ça. Il avait quand même changé, hein. Le front était plus grand, les arcades sourcilières étaient moins prononcées. Que l'image que l'on voit d'Elvis dans sa tombe. Donc, on se dit, c'est un montage, c'est pas lui. Donc, ça commence à circuler. Deuxième élément qui vont contribuer à la naissance du mythe, c'est que Elvis Presley n'a pas été enterré chez lui comme on le voit aujourd'hui. Tu visites Graceland et il y a un jardin derrière et Elvis se trouve dans le jardin. Il y a également sa mère qui est là, son père et sa grand-mère qui sont enterrés auprès de lui.
Okay.
Et ça, c'est dans le jardin de Graceland. Mais originalement, Les gens qui étaient là en 1977 se rappellent peut-être de ça. Elvis n'a pas été enterré là au début. Il a été enterré dans un mausolée au Forest Hill Cemetery, qui se trouve d'ailleurs sur le Elvis Presley Boulevard. Donc, il y avait un grand mausolée et le corps d'Elvis, le cercueil, a été amené au mausolée et déposé dans le mausolée. Mais voilà qu'au mois d'octobre, prétextant plutôt que des vandales avaient voulu pénétrer dans le mausolée pour voler le corps d'Elvis, on autorise que le corps soit déplacé. Alors, le cercueil d'Elvis Presley est sorti du mausolée du cimetière de Forest Hill et transféré à Graceland, là où il est enterré. Cet élément-là, bien sûr, va contribuer aux théories du complot. Pourquoi le sortir du caveau de ce mausolée? Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des vandales qui ont essayé de pénétrer à l'intérieur?
Et ça, si parenthèse, c'est... Christian, on est mieux de pas le savoir parce que je trouve ça tellement triste qu'il y ait des voleurs qui essaient de faire fortune.
En volant le corps d'Elvis. On avait vu la même chose avec des gens qui avaient essayé de piller le cercueil de Charlie Chaplin parce qu'il avait été entouré avec deux lions d'or qui avaient reçu des hommages du cinéma. Il avait été enterré avec ses deux lions d'or et des vandales ont essayé de déterrer la tombe de Charlie Chaplin pour voler les lions.
C'est troublant.
C'est troublant. Tu dis, on est sur le bord de la maladie mentale. Là,
ouais.
Donc, ces gens-là vont... Bon, la police dit, on a arrêté des vandales. Il n'y aura pas d'accusation qui sera réellement portée, mais on nous dit ça. Voilà, des vandales ont essayé de pénétrer dans le mausolée et on a autorisé que le corps d'Elvis soit déplacé. Et à la demande du père d'Elvis, Vernon, qui était toujours vivant à ce moment-là, on s'est dit, on va l'enterrer derrière la maison. Il y a une autorisation spéciale qui est faite. Donc, le fait qu'on sorte le corps d'Elvis de ce mausolée pour le transféré à Graceland, ça vient ajouter à la théorie que Elvis est toujours vivant parce qu'on se dit, si c'est vrai que des gens auraient pu pénétrer à l'intérieur du caveau et sortir, ouvrir le cercueil, ils se seraient bien rendu compte qu'Elvis n'est pas dans son cercueil. Donc, le secret aurait été éventé, d'où la raison de la famille Presley de faire transférer le cercueil. Parce qu'on aurait pu simplement ajouter des systèmes de sécurité. Non, on décide d'enlever le cercueil. Pourquoi? Ben parce que on se rend compte que l'ouverture du cercueil pourrait révéler au monde entier qu'Elvis est toujours vivant. Ensuite de ça, donc ça, mais tu vois, c'est des éléments assez anecdotiques, tu vois. Ben là, c'est beaucoup pour pas grand-chose.
C'est ça, je réfléchis pas aussi loin, moi.
Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, on amène Elvis, on l'enterre. Bon, on va également y exhumer le corps de sa mère, parce que Elvis voulait être enterré au Forest Hill Cemetery parce qu'il voulait être près de sa mère. Il y avait une relation très, très fusionnelle avec sa mère. Donc, lorsqu'on décide de retirer le corps d'Elvis du cimetière, du caveau, bon, le caveau, en fait, c'est un mot. La famille Presley demande également à ce que soit exhumé le corps de la mère d'Elvis, Gladys, pour qu'elle puisse être enterrée près d'Elvis. C'était le souhait d'Elvis d'être près de sa mère après son décès. Donc, l'autorisation est donnée, on va exhumer le corps de Gladys Presley et le corps d'Elvis va être sorti du caveau, du mausolée, pour être enterré dans le jardin de Memphis. À Memphis, mais dans le jardin de Graceland. Et là va apparaître le deuxième élément. Sur la tombe d'Elvis, hein, c'est écrit son nom, c'est Elvis Aaron Presley. C'était son nom complet. Mais quand Elvis signait, puis ça lui arrivait assez fréquemment de signer de ses trois noms, donc Elvis Aaron Presley, il écrivait toujours Aaron, A-R-O-N. Or, sur la pierre tombale d'Elvis, c'est écrit Aaron avec un double A au début, donc A-A-R-O-N. C'est le même orthographe que l'on retrouve dans la Bible pour le nom du frère de Moïse. Donc, on se dit, tiens, c'est curieux, pourquoi, alors qu'Elvis a toujours écrit son nom avec un seul A, hein, le nom du milieu, Aaron avec un seul A, pourquoi sur la plaque de bronze qui est placée sur sa tombe, pourquoi y a-t-il un double A? Alors là, évidemment, on se met à s'imaginer que ça doit être un indice. Un indice de quoi, tu sais? En fait, le double A sur le nom de Aaron, c'est tel qu'il figure sur son baptistère. Donc, on a utilisé le nom, l'orthographe précise de son baptistère, okay, lorsque l'on a fait cette plaque en bronze qui nous rappelle sa carrière et l'importance qu'il a eue dans la culture musicale américaine.
Sachant cette information-là, ça pète la bulle là, des gens.
Ouais, ça pète la bulle. Là, on s'est dit, OK, mais Elvis, dans le jardin de Graceland, n'est pas enterré aux côtés de sa mère. Il est enterré, il y a lui, il y a son père et il y a sa mère à côté, et de l'autre côté, il y a sa grand-mère. Finalement, Elvis est coincé entre son père, qui est décédé à peu près un an après Elvis, et sa grand-mère. Là, tu te dis, c'est quand même curieux qu'Elvis soit pas aux côtés de sa mère, puisque c'était son souhait. Encore là, ça doit être un indice qui est toujours vivant. L'indice de quoi? Parce qu'il n'a pas été enterré immédiatement. Il faut savoir que quand ils ont enterré Gladys et Elvis, ils s'étaient donné beaucoup de jeux entre les deux tombes. Et quand Vernon Presley est décédé et quand May, la grand-mère, est décédée, ben, ils les ont placés de manière à ce que ça puisse rentrer. Puis, ben, le Vernon pouvait pas être placé entre Gladys et Elvis et la grand-mère à côté. Puis ça fonctionnait comme ça. Puis c'est comme ça qu'ils ont été enterrés. Donc, il y a un... Disons, la raison de ce que les gens ont été inhumés de cette manière-là, c'est une raison pratico-pratique. Mais il y a des gens qui se disent, non, il doit y avoir quelque chose là-dedans d'étrange. Et là, à ça va s'ajouter des photos. Là, les gens se mettent à visiter Graceland et prennent des photos à l'extérieur de Graceland. Et sur quelques photos qu'on va voir sortir dans les journaux, on voit des gens comme derrière des fenêtres ou derrière des portes. Puis ces gens-là, ben ils sont à moitié dans l'ombre. Puis là, c'est des gens disent, regardez là, l'homme derrière dans cette photo où on voit une fenêtre du deuxième étage de Graceland, on dirait un homme derrière le rideau. Le profil ressemble à Elvis. Ça doit être Elvis. Ben oui, il a orchestré sa mort, il s'est mis plein de problèmes pour pouvoir dissimuler au monde entier son décès, mais il continue d'habiter Graceland, qui est la deuxième maison privée la plus visitée au monde.
Ben ça, c'est à cause des films, Christian, ouais. Le fameux parapluie noir, quelqu'un qui se cache en arrière d'un arbre pour regarder sa propre mort, son propre enterrement.
Ben là, c'est ça, t'as comme, Graceland est la deuxième maison privée la plus visitée au monde, la première étant la Maison Blanche, parce qu'on oublie souvent que la Maison Blanche, même si c'est la maison qu'habite le président, c'est considéré comme une maison privée. C'est la résidence du président. Donc, c'est la maison la plus visitée. Et la deuxième au monde, c'est Graceland. Donc, Elvis, qui a orchestré sa mort, se cache, joue à la cache-cache avec les visiteurs dans la maison de Graceland, dans sa maison de Graceland, pour pas que les gens le voient. Donc, c'est un peu ridicule. Et puis arrive, à la fin des années 70, un nouvel événement. Un nouveau chanteur apparaît sur la scène artistique et il est masqué. Donc, c'est le chanteur masqué et il s'appelle Orion et il chante avec une voix qui n'est pas sans rappeler celle d'Elvis Presley. Je t'ai envoyé un petit extrait et donc, pour le plaisir de nos auditeurs, voici le chanteur masqué Orion.
Don't know.
OK, oui, ça y ressemble vraiment beaucoup, mais là, il y a Martin Fontaine qui lève la main et qui dit « Ouais, c'est parce que moi aussi, je suis capable. »
Effectivement, il y a plein d'excellents imitateurs d'Elvis. Oui. Il y a des concours qui se font aux États-Unis. Il y a des spectacles dans plein de grandes villes, des espèces de Martin Fontaine américains. Il y en a des dizaines et des dizaines qui tiennent l'affiche en faisant des spectacles et en incarnant Elvis.
Mais là, ce qui change la donne, c'est le masque et le look qui ressemble.
Pourquoi? Oui, c'est ça. Il y a un physique qui ressemble à Elvis. Alors, pourquoi porter un masque? Je veux dire, c'est un peu étranger. Ce fameux chanteur Orion, éventuellement, va retirer son masque. Il s'appelle Jimmy Ellis. C'est un chanteur qui, dans son cas, il n'imite pas Elvis. D'ailleurs, il ne fait pratiquement jamais de chanson d'Elvis. La chanson qu'on vient d'entendre n'est pas une chanson d'Elvis. C'est une chanson un peu dans le gabarit, dans les thèmes que chantait Elvis, mais ce n'est pas une chanson d'Elvis. Donc, Jimmy Ellis a son propre répertoire et c'était un coup de pub d'avoir utilisé le masque au début de sa carrière alors qu'Elvis venait de mourir et ça entretenait la légende de Elvis est-il toujours vivant. Donc, mais c'est sûr que l'apparition de ce chanteur, Orion, va ajouter encore de l'eau au moulin à ceux qui disent « Ah, il est toujours vivant, puis à preuve, il chante maintenant masqué sous le nom d'Orion. » Et encore là, tu te dis « Ouais, mais il aurait pu chanter sous le nom d'Elvis, ça aussi, ça marchait bien. » Pourquoi orchestrer ta mort pour 2 ans après revenir comme chanteur? Tu sais, je veux dire...
Non, c'est ça.
si tu réfléchis, là, cette pensée-là est comme un peu absurde, mais néanmoins, ça va ajouter de l'eau au moulin et voilà que va se produire un autre événement. En 1988, donc 10 ans après la mort de Elvis, en fait 11 ans, il y a une journaliste, Gail Brewer Giorgio, qui va publier un ouvrage qui s'intitule Is Elvis Alive? Est-ce que Elvis est toujours vivant? Bon, d'abord, situons un peu Gail Brewer Giorgio, c'est une journaliste, mais elle fait beaucoup dans le potinage et la rumeur. Hein. C'est pas une journaliste du New York Times ou du Washington Post. Là. Elle est pigiste et elle travaille dans des petits journaux qui aiment bien multiplier les rumeurs, le potinage artistique. Et là, elle publie son ouvrage et elle a mis la main sur un enregistrement. Et là, elle raconte que c'est un tierce qui aurait eu une conversation avec Elvis après sa mort, bien sûr. Et là, Elvis explique un peu pourquoi il a décidé de se retirer, qu'il était tanné de cette vie d'artiste, il avait envie de recommencer sa vie. Et de façon un peu spectaculaire, l'ouvrage de Gail Brewer Giorgio, Is Elvis Alive, est mis sur le marché avec la cassette. Donc, quand t'achètes le livre, dans l'emballage, il y a la cassette qui s'appelle le Elvis Tape. Oh. On en fait entendre un petit bout.
Donc, il raconte qu'il s'est mis à voyager, entre autres, pour ce qu'il n'était pas en semi-retraite, mais il a voulu se retirer de la vie publique, comme tu as mentionné.
Voilà. Puis, en tant que Elvis, ben, il avait comme ses contrats avec le colonel Parker qui l'empêchait de sortir des États-Unis, puis il avait envie de voir le monde, puis voilà. Mais on sait aujourd'hui que tout ça est une fraude, cette cassette. On connaît l'auteur. C'est une personne qui imite Elvis. Donc, ils ont fabriqué cet enregistrement. Donc, tout ça est un peu une arnaque. Je crois pas que Brewer Giorgio a été impliqué dans l'arnaque. Je pense qu'elle a été dupée. On lui a remis cet enregistrement-là en lui disant, voilà, c'est un enregistrement d'Elvis. Elle l'a pris et elle a fait entendre, parce que dans son livre, elle dit l'avoir soumis à des experts en voix qui ont écouté l'enveloppe sonore de la voix, puis ils étaient convaincus à plus de 90% que c'était la voix d'Elvis. Et sur la foi, donc, de ces conclusions-là, elle publie son livre avec l'enregistrement et bien sûr ça va finir de combler ce mythe du Elvis est-il toujours vivant. Là, on a toutes les preuves devant nous, on a un double A sur sa pierre tombale, le corps est enlevé du cimetière, des photos énigmatiques prises à Graceland et en plus Orion qui vient chanter. Ben là, écoute, le mythe est complet, Elvis est toujours vivant. Mais malheureusement, comme tu le vois, tout ça ce sont des petites anecdotes sans intérêt qui ont été multipliées liés auxquels on a trouvé des sens. Et à travers ça, bien sûr, il y a eu des manipulations, des fraudes, des coups de publicité. Orion, hein, ce Jamie Ellis qui va se donner un coup de publicité en portant un masque et en je dirais, il y a un peu le pantomime aussi. Quand on le regarde chanter, il y a un peu le pantomime d'Elvis, il branle la jambe. Donc, tout ça va ajouter au mythe, mais malheureusement, il faut se rendre à l'évidence. Elvis Presley est bel et bien mort le 16 août 1977.
Et Orion aura profité pendant combien d'années de cette espèce de petite vague de personnes?
Je te dirais, il a quand même fait ça pendant 3 ou 4 ans, chanter avec le masque. Le chanteur masqué était très populaire, on s'arrachait ça. Et puis aujourd'hui, il chante toujours, mais il chante bien sûr sous le nom de Jamie Ellis.
Okay.
Et il lui arrive de chanter des chansons d'Elvis avec des arrangements musicaux quand même différents un peu de ceux de Presley. Et... mais je te dirais 90-95% de son répertoire, c'est de la musique des années 60-70 ou des compositions qui reprennent un peu cette même tonalité, mais ce n'est pas il ne va pas piger dans le répertoire de Presley.
Ben merci, Christian. Avant de faire une pause,
oui.
Notre suggestion de documentaire ce soir, en fait, c'est la tienne, tant qu'à rester dans les complots, un autre John F. Kennedy, JFK Revisited.
Oui, par nul autre que Oliver Stone. Alors, on se rappelle que Oliver Stone, en 91, avait fait le film JFK, où Kevin Costner jouait le rôle du procureur Jim Garrison. Et donc là, c'était la théorie du complot. Il faut le dire, hein, Oliver Stone est persuadé que John F. Kennedy a été tué à l'issue d'un complot. Donc, il avait fait un premier documentaire sur JFK à la sortie du film, de son film « fiction », entre guillemets. D'ailleurs, à cette époque-là, le film avait été très critiqué. Hein. Les gens ont peut-être bien aimé le film, mais les historiens, les spécialistes de l'affaire Kennedy avaient dit « Écoute, Oliver Stone ne fait pas un film historique. » Il réécrit l'histoire.
Ça
s'est pas passé comme ça. Et c'est vrai que dans le documentaire et dans le documentaire qui est sorti à peu près en même temps, qui accompagnait le film, c'est vrai qu'Oliver Stone fait ce que l'on appelle du cherry picking. Hein. Il choisit les éléments qui vont servir à sa théorie du complot. Hein. Je te donne un exemple. Dans le film, comme dans le documentaire qui avait suivi, on nous dit, l'assassin présumé du président Kennedy, Lee Harvey Oswald, se fait interpeller à un moment donné sur la rue. Donc, après l'assassinat, il va quitter le dépôt de livres où, conditionnel, là, il aurait assassiné le président, il va fuir, il va se rendre dans sa chambre. Hein, il loue une chambre à Dallas. Et donc, il s'en va à sa chambre, va changer ses vêtements, mais il va enfiler quand même le même petit coupe-vent qu'il avait lorsqu'il a quitté le dépôt de livres, et là, il s'en va sur la rue. Et là, il y a un signalement qui est lancé au service de police à travers les radios, que ce soit les motocyclistes de la police ou les autopatrouilles. Et puis là, on lui dit, voilà, on cherche un homme qui fait à peu près 1,70 m, il porte un petit coupe-vent bleu, blablabla, on donne cette description. Et voilà qu'il y a un policier qui voit un homme qui marche sur la rue et qui semble un peu nerveux, hein, alors il l'interpelle, le gars il a un coupe-vent bleu, il l'interpelle, le policier c'est l'agent Tippett, il l'interpelle, il dit « Hey monsieur !» Et aussitôt l'interpellé qui est Lee Harvey Oswald sort un pistolet et va abattre Tippett, et là il va se sauver en courant et va aller trouver refuge dans un cinéma. Donc, dans le film, on nous dit, c'est curieux, parce que lorsque l'agent Tippett a été assassiné, il y avait Madame X ou Y qui était à 2 mètres de la scène et elle n'a pas reconnu Lee Harvey Oswald comme l'homme qui a tiré sur l'agent Tippett. Ce qui est tout à fait vrai. Sauf qu'on oublie de nous dire que Madame XY se trouvait au milieu d'un groupe de gens qui attendaient l'autobus et que toutes les autres personnes qui étaient là ont reconnu Lee Harvey Oswald comme l'homme qui a tiré sur l'agent Tippett. Tu comprends? Donc, autant dans le film que dans son documentaire à ce moment-là, Oliver Stone a choisi le témoignage de cette dame-là parce qu'il correspondait à sa théorie du complot, mais dans les faits, il réécrivait l'histoire parce qu'il y avait une dizaine de personnes qui étaient là et sur les 10, 9 ont reconnu Lee Harvey Oswald comme l'homme qui a tiré sur le policier Tippett.
Il avait fait un bon ménage dans le paysage.
Ouais. Donc, quand le film sort en 91, il faut quand même donner à César ce qui est à César. Hein. Oliver Stone a suscité un tel intérêt autour de JFK que les documents concernant JFK ne devaient pas être, certains devaient être publiés seulement en 2025 et d'autres en 2040. Mais il y a eu une telle pression sur les archives nationales américaines et sur le gouvernement, la liberté d'expression, pas la liberté d'expression, mais la liberté d'information. Donc, des gens ont adressé des demandes via la loi d'accès à l'information pour avoir des documents sur Kennedy et on a accéléré le processus. Donc, au lieu d'attendre 2025-2040, grâce au film d'Oliver Stone, on a pu avoir accès à ces documents dès le milieu des années 2010. On a eu les premiers documents qui ont commencé à être publiés 2015-2016 sous l'administration. Au départ, ça a commencé sous l'administration de Barack Obama et ça s'est poursuivi surtout sous l'administration de Donald Trump, hein, parce qu'on arrivait à une espèce de date butoir. Et là, à ce moment-là, Donald Trump a fait rendre public la presque totalité des documents qu'on avait encore, qui étaient encore conservés aux archives nationales, mais secrètement, donc confidentiels, qui ont été rendus publics. C'est des milliers, sinon aujourd'hui on parle d'à peu près 50 millions de pages qui ont été publiées sur l'assassinat du président Kennedy.
Okay, wow.
Donc, et ça on le doit bien sûr à ce regain d'intérêt qu'a soulevé la sortie du film JFK d'Oliver Stone. Mais Oliver Stone, évidemment, n'a jamais été satisfait parce que dans ces documents, tu comprends bien qu'on n'a jamais trouvé le smoking gun qui permettait de croire à la théorie du complot. Hein. Ces documents-là ont été rendus publics et ce qu'on découvre, en fait, c'est que le gouvernement a maintenu la confidentialité de ces documents parce qu'à travers eux, on apprend plein de choses qui concernaient pas vraiment JFK, mais qui n'étaient pas nécessairement non plus très reluisantes. T'sais, on apprend par exemple que la CIA cherchait à engager des gens pour faire abattre Fidel Castro dans un projet qu'on appelait le projet Mangouste. Donc, il y a tous des trucs comme ça qui étaient un peu louches, pas nécessairement très reluisant pour le gouvernement. Puis on apprend aussi que il y a plein de gens qui étaient sous écoute. Puis c'est dès qu'il suffisait que t'aies à cette époque, on avait tellement peur des communistes que si oui. T'avais une voiture rouge dans ta cour, tu risquais de te retrouver sous écoute par le FBI ou la CIA. Et c'est un peu ce qu'on découvre dans ces documents-là, une espèce de paranoïa au début des années 60 du gouvernement américain pour le communisme et qui allait parfois dans des extrêmes pour surveiller des gens, surveiller des groupes, faire du profilage. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de dissimuler à travers ces documents. Mais si on regarde précisément pour l'assassinat de JFK, il n'y a pas de smoking gun. Il n'y a rien là-dedans qui nous permet de renverser les conclusions. Il faut se rappeler qu'il y a eu deux commissions d'enquête sur la mort du président Kennedy. La première qu'on a appelée la commission Warren, qui avait conclu que Kennedy avait été abattu par un tireur solitaire, qui était Lee Harvey Oswald. Et au milieu des années 70, il y a eu une nouvelle commission d'enquête sur les assassinats. Là, on a enquêté, on a réouvert le dossier de JFK, mais celui-ci de Bobby Kennedy, celui de Martin Luther King. Et dans cette deuxième commission d'enquête, on avait conclu, puis là, faut quand même le préciser, on avait conclu que rien ne permettait de renverser la conclusion de la commission Warren, c'est-à-dire le tireur solitaire qui était Lee Harvey Oswald. Mais dans cette deuxième commission d'enquête, on laissait la porte ouverte à la théorie du complot. Il est possible qu'il y ait eu un complot. Mais il faut quand même le dire aujourd'hui, la raison pour laquelle on n'avait pas fermé la porte à la théorie du complot, c'est que durant cette commission, dans les années 70, on avait présenté ce qui semblait être une preuve matérielle, c'est-à-dire un enregistrement qui provenait d'un motocycliste de la police de Dallas, et on nous disait que cet enregistrement-là, il avait laissé son micro ouvert, il se trouvait près, on nous disait qu'il se trouvait près du Daily Plaza au moment où l'assassinat s'est produit, et sur l'enregistrement, on a l'impression d'entendre 4 détonations, alors que Lee Harvey Oswald n'a tiré que 3 coups. Donc, s'il y a un quatrième coup qui a été tiré, forcément, il devait y avoir un autre tireur. Et c'est sur la foi de ça que la commission sur les assassinats, comme on l'a appelé en 1977-78, a conclu qu'on ne pouvait pas fermer la porte à la théorie du complot. Mais on sait aujourd'hui que cet enregistrement de la fusillade par le policier de Dallas n'est pas recevable. Parce qu'on sait aujourd'hui que le policier se trouvait pas à l'endroit où il disait être. Et on sait également que l'enregistrement ne correspond pas au moment de la fusillade. L'enregistrement en question a été enregistré comme 4, 4 ou 5 heures plus tard. Donc, ça n'a rien à voir avec JFK. Donc, cette preuve-là doit être rejetée. Si les gens de la commission sur les assassinats avaient rejeté cette preuve-là, s'ils avaient su tout ça, ils l'avaient rejetée, ben, il n'est pas certain qu'il aurait laissé la porte ouverte à la théorie du complot. Il se serait probablement rangé comme l'ont fait le juge Earl Warren en 1963, lorsqu'il a dit, ben voilà, Kennedy est abattu par un tireur solitaire. Mais bon, bref, l'histoire reste ouverte. Les gens qui continuent de croire en théorie du complot, il doit y avoir autre chose. Même si on épluche les dossiers, les documents, il n'y a rien là-dedans qui va dans le sens d'une théorie du complot. Bien sûr, on apprend des petites choses intéressantes. Lee Harvey Oswald était surveillé par le FBI, mais c'est vrai. C'est un type qui avait fait défection en Union soviétique, qui était revenu aux États-Unis.
C'est
ça. Et à la Nouvelle-Orléans, il avait créé une espèce d'association dont il était le seul membre et il diffusait des tracts avec des pensées ou un discours pro-castriste et contre la pensée américaine. C'est oui au communisme, le communisme c'est parfait puis c'est merveilleux. Ben c'est sûr qu'il était fiché par le FBI. Il y a ces petits éléments-là qu'on trouve, mais encore une fois, rien qui nous permet de dire qu'il a agi avec d'autres individus pour commettre le crime. Quoi qu'il en soit, cette année, donc ça vient de sortir, c'est actuellement disponible sur Super Écran, sur Crave. Les gens peuvent voir ce nouveau documentaire d'Oliver Stone, JFK Revisited, donc JFK Revisité. C'est un excellent documentaire. On n'apprendra pas à Oliver Stone à faire de la télé, à faire du cinéma. Mais encore une fois, il faut bien connaître l'histoire. Hein? Il agence des choses en très lent. Il fait intervenir des gens. Il montre des documents qui paraissent ambigus. Et il réussit parfaitement à construire sa vision de la théorie du complot. T'sais, donc, si tu regardes ça, tu connais pas très bien l'histoire Kennedy, tu regardes ça, et c'est sûr que documentaire, après 1h58, tu es convaincu qu'il y a eu un complot. Mais, hein, moi qui l'ai regardé, qui connais bien l'affaire Kennedy, j'ai trouvé que c'est un peu moche qu'à aucun moment, il fait intervenir des gens qui disent pas comme lui. C'est-à-dire que tous les gens qu'on voit dans l'émission sont tous des gens qui sont persuadés qu'il y a eu un complot. Ce serait intéressant de faire intervenir des historiens à croire Oliver Stone. Tous les spécialistes de JFK sont tous des théoriciens du complot. Tu comprends?
Donc, c'est ça comme ne sera pas le premier documentaire qui a un petit billet, là. Hein?
Non, je pense qu'il y a un gros billet. Alors qu'il y a plein d'historiens qui ont écrit des ouvrages, hein, puis des grands historiens qui sont reconnus dans leur milieu, qui enseignent dans des universités prestigieuses, Harvard, Yale, qui ont écrit des ouvrages sur JFK et qui ont clairement dit, ben, après avoir analysé tous les faits, il est clair que Kennedy est assassiné par un illuminé qui était Lee Harvey Oswald. Merci, bonsoir. Vincent Bugliosi, hein, il a écrit Vincent Bugliosi, on en a parlé la semaine dernière. C'est l'avocat qui a envoyé Charles Manson en prison. Vincent Bugliosi est devenu éventuellement le procureur de Californie et il s'intéressait à l'affaire Kennedy. Il a écrit probablement l'ouvrage le plus conséquent, le plus important jamais publié sur JFK. Une énorme brique, là. Écoute, le livre doit peser 30 livres à lui tout seul. Il doit avoir 5000 pages, là. Tu vois le genre de bouquin, là. C'est deux fois l'épaisseur d'un dictionnaire, là. Et avec ça, il y a un CD qui venait avec, dans lequel on retrouvait quelque chose, des milliers de pages sur l'affaire Kennedy. Et le titre de l'ouvrage de Vincent Bugliosi, c'est Reclaiming History, hein. Reprendre, récupérer l'histoire. Et à l'issue de cet ouvrage-là, pour Vincent Bugliosi, Kennedy était abattu par Lee Harvey Oswald. Merci, bonsoir, puis on passe à autre chose. Et il y a plein d'historiens qui vont dans ce sens-là. Je dis pas, puis je prends pas position, est-ce qu'il y a eu complot, pas complot. Moi, je suis pas trop complot, mais je laisse la porte ouverte. Mais ce que je peux reprocher au document d'Oliver Stone, c'est qu'à aucun moment, il ne fait intervenir des gens pour remettre les pendules à l'heure. Tu sais, il serait intéressant de voir quelques historiens qui sont plutôt persuadés qu'il n'y a pas eu de complot, de voir pourquoi ils rejettent les arguments que propose Oliver Stone. Parce que tous les arguments que propose Oliver Stone ont tous été répondus par des historiens, des spécialistes de l'histoire des États-Unis, spécialistes de la CIA, du FBI et bien sûr de l'affaire Kennedy. Mais à aucun moment, ces gens-là n'interviennent dans le documentaire d'Oliver Stone. Mais c'est un excellent documentaire très efficace. Je te le dis, je l'ai regardé. Puis écoute, il y a des choses là-dedans. Si tu connais pas l'envers du décor, quand le documentaire est fini, t'es persuadé qu'il y a eu un complot. Mais, je le dis pour les gens qui seraient intéressés de le regarder, gardez-vous une petite gêne.
On a la bande-annonce pour les auditeurs. On va faire une pause et au retour, ça va être le sujet principal de la soirée. Christian, un gros merci.
Ça me fait plaisir.
What kind of a peace do we seek? Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, peace in all time.
The flash, apparently official, President Kennedy died some 38 minutes ago.
Here is the suspect, 24-year-old Lee H. Oswald.
I'm just a patsy. President.
Who actually fired the shots that killed Kennedy? Was there a conspiracy?
In the years since the Warren Report, there is now so much more that we know. Conspiracy theories are now conspiracy facts.
The Warren Commission successfully deceived the public.
Alan Dulles' appointment to the Warren Commission is one of the great frauds of American history.
Documents are withheld by the FBI, the CIA.
Intelligence agencies did all the wrong things if they were looking for conspiracy.
We will go back and piece together new facts and evidence that shed more light on what really happened here that day.
Commission believes that the same bullet that hit Kennedy hit Connally. Well, I don't believe it.
It is indeed a magic bullet.
Oswald was a figure of interest for 4 years before the assassination. They were reading his mother's mail.
His first year in office, Kennedy made many enemies.
He vows he's going to shatter the CIA into 1,000 pieces.
Have you ever committed any act of violence?
He was intimately involved in the cover-up.
Once you kill a president on the streets of American City, that sends a signal.
The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.
If America really wants a democratic society, and we should get to the bottom of this traumatic crime that continues to reverberate throughout American history.
This nation will not be fully free until all its citizens are free.
Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X.
À 19h44 minutes ce soir, on s'intéresse à une mystérieuse carte de Vinland. Premièrement, c'est dans quel coin ça, Vinland?
Vinland, ça n'existe pas.
Ah! C'était supposé être dans quel secteur quand même?
En fait, c'est supposé être le Québec. Hein? Le Vinland, c'est le Québec. En fait, c'est le Labrador et le golfe du Saint-Laurent, c'est Vinland. Okay. Mais je t'explique un peu l'histoire de cette carte-là, puis tu vas comprendre pourquoi je t'en parle aujourd'hui et pourquoi elle a encore des conséquences aujourd'hui. Donc, en 1957, on retourne un peu dans l'histoire, en 1957, on a un certain Lawrence Witten, qui est un antiquaire de livres rares et anciens, et là, il propose à l'Université de Yale, qui a une magnifique collection de manuscrits et de livres anciens, on lui propose une carte qui est associée à un codex qui, lui, est bien connu des historiens. Il y en a plusieurs exemplaires du codex qui s'appelle l'Historia Turtatorum, qui est l'histoire des Mongols. Et associé à ce codex-là, il y a la fameuse carte en question. On sait que le codex date à peu près du 15e siècle. On parle, si on essaie de trouver une date, ce serait aux alentours de 1440 pour le codex. Et là, il y a cette carte qui est associée avec le codex. Et quand on la déplie, on voit bien que c'est une carte ancienne. Elle est tracée sur un parchemin. Et là, elle montre des parties ou des zones du monde qui, officiellement, au 15e siècle, étaient inconnues. Donc, okay. On voit, par exemple, une partie du Japon, on voit le Groenland, on voit une partie de l'Amérique du Nord, en fait, le Labrador et une partie du golfe du Saint-Laurent, le Québec. Et c'est justement cette partie sur la carte que les auteurs de la carte ont appelé Vinland.
Okay.
Si la carte, elle est authentique, hein, tu comprends, parce que cette carte-là va à l'encontre de tout ce qui est connu. Là. Toutes les autres cartes de la même époque n'ont absolument aucun détail sur ces régions du monde. Il faut quand même se rappeler ici qu'on est avant que Christophe Colomb ne découvre l'Amérique. Donc, on sait pas, on ne connaît pas l'existence de ce continent. Quelques années après, on va découvrir des vestiges vikings à Lance-aux-Meadows, à Terre-Neuve, donc qui prouvent que les vikings s'étaient rendus aux alentours de l'an 1000 à Terre-Neuve, mais c'était pas la découverte d'un continent. Pour les vikings, ils avaient simplement poussé plus loin le territoire de chasse,
ouais.
Et au-delà du Groenland, ils étaient tombés sur une terre qu'ils croyaient être une île, et ils se sont installés là, avec une occupation plus ou moins soutenue pendant 200 ans à peu près. Ce sont les vestiges de Lance-aux-Meadows qui sont à Terre-Neuve, mais les vikings Viking ignoraient qu'il était sur un nouveau continent. Donc, au moment où la carte commence à circuler, c'est extraordinaire. Elle contient des parties du monde qu'on n'a jamais vues. Il n'y a aucune référence historique qui évoque l'existence d'une telle carte. Et l'université de Yale, bien sûr, avec comme elle a déjà une collection de livres anciens, de cartes, elle souhaiterait mettre la main sur le document. Mais le prix demandé est trop élevé. L'université de Yale doit décliner. C'est à ce moment-là qu'arrive un certain Paul Mellon, qui est un étudiant. Inutile de dire que l'université de Yale, on retrouve beaucoup d'étudiants qui viennent de familles excessivement fortunées.
Oui.
La famille Bush, par exemple, père et fils ont passé par l'université de Yale. Il y a plein de hauts dirigeants d'entreprises aujourd'hui qui ont passé par Yale. Et il y a aussi une société secrète d'étudiants, une société étudiante qui est bien connu des auditeurs qui s'intéressent aux théories du complot, qui est le Skull and Bones. Hein? Donc, la société secrète du Skull and Bones, c'est la société secrète étudiante de l'université de Yale. Donc, cet étudiant, Paul Mellon, qui provient d'une famille très, très riche, décide d'acheter la carte à titre personnel avec l'idée d'en faire don éventuellement à l'université de Yale. Un peu une espèce de remerciement. Donc, il achète la carte et avant de la remettre à l'université de Yale, il se propose de la faire étudier par des experts et bien c'est un peu la condition sine qua non. Il va la remettre à Yale une fois qu'il aura acquis la certitude de l'authenticité de la carte. Et pour ce faire, il va donc la remettre à deux spécialistes du British Museum, un spécialiste de l'université de Yale, un historien, qui vont regarder la carte et ils ne trouvent pas de défaut. Hein, on se dit, elle doit être authentique. Et c'est comme ça qu'en 1965, Paul Mellon fait don de la fameuse carte qu'on appelle à ce moment-là carte de Vinland. On la remet donc à l'université de Yale et elle va se retrouver dans la collection des cartes et documents anciens de l'université de Yale. Pour situer un peu les auditeurs qui connaissent un peu ces sujets de documents un peu controversés, c'est à l'université de Yale que se trouve l'extraordinaire, renversant, fabuleux manuscrit de Voynich que j'ai tenu dans mes mains une quinzaine de minutes. Écoute,
Le
dis puis j'ai encore des frissons. Donc, c'est là que se trouve le manuscrit de Voynich et la carte de Vinland va se retrouver donc dans ses voûtes où sont conservés ces documents. Et bien sûr, si elle est authentique, comme je l'ai mentionné, il faut réécrire l'histoire, là, parce qu'on voit bien que des visiteurs auraient découvert des terres qui étaient inconnues bien avant que Colomb ne découvre l'Amérique. Et là, ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Mais bien sûr, la carte de Vinland est-elle authentique? Et là, dès le départ, dès qu'elle se retrouve dans les voûtes de l'université de Yale, il y a quand même de nombreux historiens qui soulèvent des réflexions. C'est quand même curieux parce que dans le cas de la carte de Vinland, contrairement au manuscrit de Voynich, mais je parlerai pas du... Le temps file, j'ai pas le temps de te parler du manuscrit de Voynich, mais dans le cas de la carte de Vinland, on n'a aucune référence historique, on n'a aucun document ancien qui vient dire « Ah, on a vu une carte qui contenait des régions peut-être fantasmées qui n'ont jamais existé. » Il n'y a jamais personne qui a fait cette réflexion-là. La carte de Voynich, la carte de Vinland, pardon, on dirait que personne ne l'a vu et personne n'en a jamais fait de commentaire. Et là, on commence à se poser des questions. Mais à ce moment-là, on peut canaliser le papier. On fait une analyse au carbone 14 sur le papier.
Ah.
Et on établit que le papier est tout à fait ancien, qu'il date du 15e siècle, ce qui vient ajouter à l'idée que la carte est peut-être vraie. Mais voilà que au début des années 70, une enquête va découvrir qu'il y a dans l'encre utilisée par l'auteur de la carte, on a utilisé du dioxyde de titane. Or, le dioxyde de titane n'existait pas au 15e siècle. Donc, la personne qui a fait les traits a utilisé une encre moderne. Il a pu acheter du vieux papier ou arracher des pages dans un vieux manuscrit ancien, mais le dessin de la carte semble beaucoup plus récent.
Oh.
Mais des historiens vont dire « Oui, mais des particules de fer, on en a retrouvé dans certaines encres anciennes et il pourrait y avoir aussi eu contamination. » Donc, la carte a pu être en contact avec un document écrit plus tardivement qui aurait contenu du dioxyde de titane qui serait transféré sur la carte. OK, à ce moment-là, la porte n'est pas entièrement fermée. Et en 2021, une nouvelle étude menée sur l'encre va cette fois démontrer très clairement que c'est une encre moderne qui date du tournant des années 1920. Donc, la carte de Vinland est un faux. L'auteur a utilisé, on ne connaît pas l'auteur, mais visiblement, il a fait, comme je l'ai mentionné, il s'est procuré des vieux parchemins sur lesquels il a dessiné une carte en ajoutant, il s'est probablement inspiré d'une carte qui circulait au 15e ou au 16e siècle, et il a simplement rajouté des bouts de territoire pour donner un aspect plus exotique à la carte. On sait donc depuis 1965, depuis le moment où la carte de Vinland est conservée à l'Université de Yale, on sait donc qu'elle est très controversée, que plusieurs historiens ont levé le drapeau en disant « attention, il y a des choses qui fonctionnent pas là-dedans », et une double analyse sur l'encre montre que la carte est un faux absolu. Il y a aucun doute. Tu peux pas changer l'histoire. C'est un faux. Or, c'est là qu'arrive ma petite partie éditoriale.
Okay.
Quand tu vois des émissions comme La Malédiction d'Oak Island qui essaie de nous faire croire qu'avant Christophe Colomb, les Templiers, les Vikings sont venus ici et qu'on nous montre en pleine face la carte de Vinland pour nous prouver que les Vikings connaissaient toute cette région-là du Canada.
Historiquement parlant, ça marche pas.
C'est se moquer des gens, là.
Ah oui.
C'est se moquer des gens et pas à peu près, là. Tu sais, cette carte de Vinland, c'est une belle fraude. Les gens qui l'ont fait ont fait preuve de beaucoup d'imagination. Mais quand on utilise cette carte-là pour nous vendre des fadaises que, oh oui, les Vikings sont venus en Nouvelle-Écosse avant Christophe Colomb, puis ont enterré un trésor, et à preuve, on a une carte qui montre ces territoires-là, et cette carte, c'est la carte de Vinland, quand on sait déjà, là, ça fait quand même depuis 1965 que les historiens parlent de la carte de Vinland comme étant possiblement un faux, même s'il a fallu attendre 2021 pour en avoir la certitude absolue. Déjà, des analyses menées dans les années 70 et 80 avaient clairement démontré qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas avec cette carte-là. Donc, moi, je suis un peu choqué quand je vois des trucs comme ça, puis je me dis, mais voyons, on prend les gens pour... Tu sais, quelle malhonnêteté, j'ai pas d'autres mots, j'aurais des mots un peu plus vulgaires, là, mais quelle malhonnêteté dans une série comme La Malédiction d'Oak Island de nous sortir des trucs comme ça pour nous dire, pour réécrire l'histoire. Dans le fond, c'est ce que l'on fait. On réécrit l'histoire en partant d'éléments que l'on sait au départ. Puis dans le cas de La Malédiction d'Oak Island, on nous présente des gens qui sont supposés être des historiens puis des archéologues. Oh, il y a quelque chose qui marche pas, là.
Mais non.
Si c'est un vrai historien puis si c'est un vrai archéologue, ils savent que la carte de Vinland est un faux. Donc, comment ces gens-là peuvent-ils accepter qu'on utilise cette carte-là pour donner de la force à des théories un peu tirées par les cheveux avec les Vikings, les Templiers et tout le reste? D'ailleurs, question de Templiers, l'un des plus grands experts sur les Templiers, parce qu'on en parle beaucoup, on fantasme sur les Templiers ici. Il y a plein d'émissions que les Templiers sont venus, ils ont enterré des trésors, l'Arche d'Alliance. Écoute, tout ce qu'on peut entendre sur les Templiers est un peu renversant. J'ai contacté il y a quelques jours l'un des plus grands spécialistes des Templiers à Paris, parce que c'est une organisation chevaleresque française qui a été créée au 12e siècle, qui a vécu à peu près 200 ans avant d'être démantelée. Donc, il y a plein de spécialistes des Templiers en France. C'est comme on a ici au Québec des spécialistes du mouvement de la Révolution de 1738, là, tu sais, les patriotes. Donc,
oui.
On a des spécialistes de ça. Mais en France, eux autres, ils ont des gros spécialistes des Templiers. Et eux ne font pas dans le fantasme. Eux connaissent l'histoire et ce qui est vraisemblable, ce qui ne l'est pas, les faits historiques. Et donc, je lui ai parlé il y a quelques jours et il va intervenir dans notre émission dans quelques semaines. On va se faire un spécial Templier. Ils vont intervenir, nous expliquer qui étaient les Templiers, ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qui relève du fantasme. Et je peux déjà vous le dire, l'idée que les Templiers sont venus enterrer l'Arche d'Alliance sur une île en Nouvelle-Écosse, ça, c'est du fantasme. Ça marche pas, ça. Fait que, écoute, on va revenir là-dessus, mais voilà. Donc, la carte de Vinland, c'est une pièce qui a beaucoup circulé, dont on a beaucoup parlé au cours des 50 dernières années. Si elle avait été authentique, elle nous aurait obligés à réécrire les livres d'histoire. Mais malheureusement, les preuves scientifiques ont démontré très clairement que le document est un faux. Une falsification qui date des alentours des années 1910.
Je me permets rapidement de te poser la question, même si on dépense un peu notre temps. À partir du moment où on confirme que c'est un faux document, est-ce qu'on la conserve quand même de par l'historique,
oui.
À quel point elle le fait jaser,
oui.
Ou on la met aux oubliettes?
T'sais? Non, la carte de Vinland, elle est toujours dans la colle. Malgré le fait qu'on ait établi que c'est un faux, elle est toujours conservée dans la collection des manuscrits rare et ancien de l'université de Yale,
okay.
Mais elle est présentée comme étant un faux. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Dans les premières fake news de l'histoire.
Là, les premières fake news. Mais c'est vrai qu'à la fin du 19e ou début du 20e, il y a eu tout un commerce qui s'est fait autour de manuscrits rares et vieux qu'on a essayé de nous faire croire qu'ils dataient de telle ou telle époque. Puis beaucoup de documents religieux, un supposé évangile de Philippe, l'évangile d'un tel. C'est des évangiles qu'on ne connaissait pas. L'évangile de Marcel. L'évangile de Marcel, t'as-tu un apôtre? Mais oui, on le connaissait pas, mais on a l'évangile de Marcel.
C'était le 13e,
Le gars qu'on oubliait. Et donc, on a eu plein de ces documents-là qui ont circulé et on achetait ces documents à prix d'or. Et le manuscrit de Voynich, dont je n'ai pas le temps de te parler, lui, dans son cas, on sait qu'il est authentique. Il date du début du 15e siècle.
Okay.
Le papier est authentique, l'encre est authentique, mais le document lui-même, que dit-il et que raconte-t-il? On le sait pas. Ça peut être un extraordinaire manuscrit d'alchimie, comme ça peut être une espèce de blague faite par un auteur avec beaucoup d'imagination du 15e siècle. Mais bon, enfin, c'est un document tout à fait exceptionnel, mais dans le cas de la carte de Voynich, là, on a pu établir sans l'ombre d'un doute la falsification.
Super intéressant encore une fois ce soir, Christian. Un gros merci. Demain, on se donne rendez-vous à la même heure pour le dernier rendez-vous de la semaine, dernière émission de Radio X-Files. Et vendredi, ce sera les meilleurs moments. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Et on dit aux auditeurs également à demain.
OK, parfait. Ciao.
Bye-bye.